Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. ONU maintient l'intégrité des informations numériques grâce aux principes mondiaux de l'ONU. Corée du Sud ouvre des opportunités d'emploi dans le secteur et la restauration. Ministère de la Main d'œuvre et COSHA travaillent ensemble pour améliorer les politiques K3 en Indonésie. Ministre du Commerce assure que les points des négociations IEU-CEPA seront achevés en juillet 2024. Usine sud-coréenne de batteries au lithium brûle. L'ambassade indonésienne à Séoul garantit qu'il n'y a pas de victimes indonésiennes. Indonésie et Canada visent l'achèvement des négociations ICA-CEPA d'ici la fin de 2024. Zohri s'est qualifié pour les Jeux Olympiques 2024. Mon cher Jeter, voici les nouvelles en complet. Les Nations Unies, ONU, s'efforcent de maintenir l'intégrité des informations sur les plateformes numériques en lançant les principes mondiaux des Nations Unies pour l'intégrité de l'information. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré mardi 25 juin dans sa déclaration officielle citée par Antara que les principes mondiaux de l'ONU pour l'intégrité de l'information vise à donner aux gens les moyens d'exiger leurs droits. Guterres a déclaré que la désinformation, les discours de haine et d'autres risques pour l'écosystème de l'information alimentent les conflits, menacent la démocratie et les droits de l'homme et compromettent la santé publique et l'action climatique. Les recommandations des principes mondiaux sont conçues pour promouvoir un espace d'information plus sain et plus sûr, un espace qui défend les droits de l'homme, des sociétés pacifiques et un avenir durable. Le gouvernement sud-coréen ouvrira des opportunités d'emploi dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration à travailleurs migrants indonésiens. C'est ce qu'a transmis le représentant du centre EPS indonésien Park Sehun à Jakarta mardi 25 juin. Park Sehun a déclaré qu'au cours du deuxième semestre de cette année, le secteur des services serait ouvert pour la première fois. Park espère qu'il y aura davantage de placements de travailleurs migrants indonésiens dans ce domaine en Corée. Selon Park, jusqu'à présent, le secteur manufacturier reste le secteur favori des travailleurs migrants indonésiens. Il a souligné que l'ouverture d'opportunités d'emploi dans le secteur des services, en particulier dans l'hôtellerie et la restauration, devrait susciter davantage d'intérêt de la part des futurs travailleurs migrants indonésiens. Parallèlement, le chef de l'Agence indonésienne de protection des travailleurs migrants, BP2MI, Benny Ramdhani, a déclaré qu'outre la Corée du Sud, il existe un potentiel d'ouverture d'opportunités d'emploi dans le secteur de la construction pour les travailleurs migrants indonésiens en Allemagne. Le ministère de la Mandofra et l'Agence coréenne de sécurité et de santé du travail, COSHA, ont signé l'accord de mise en œuvre, IA, du projet d'amélioration de la politique indonésienne de SST ou de projet d'amélioration de la politique de sécurité et de santé au travail, K3, en Indonésie. Dans un communiqué du ministère du Travail, mardi 25 juin, cité par Antara, il a été indiqué que la signature a été réalisée par le directeur général, par intérim, pour le développement de l'inspection du travail et de la sécurité et de la santé au travail K3 du ministère de la Mandofra Fahrozi et le président de COSHA An Jongju. L'objectif du projet est de perfectionner et de renforcer le système et les politiques K3 en Indonésie sous forme d'assistance technique de COSHA et durera 3 ans, de 2024 à 2026. Le ministre du Commerce de la République d'Indonésie, Zulkifli Hasan, a assuré que la préparation des points pour les négociations de partenariat économique global entre l'Indonésie et l'Union européenne, ou bien accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et l'UEIEU-CEPA, sera achevée en juillet 2024. C'est ce qu'a déclaré Zulkifli Hasan Antara après avoir assisté à une réunion interne discutant de l'IEU-CEPA à la présidence du palais de Jakarta mardi 25 juin. Il a déclaré qu'actuellement les progrès dans la préparation des points IEU-CEPA ont atteint 90%, tandis que le reste sera complété par des discussions du 1er au 5 juillet 2024 à Bogor, Java occidental, d'après une déclaration du ministère des Affaires étrangères. On espère que l'IEU-CEPA pourra devenir un instrument pour développer les activités commerciales entre l'Indonésie et l'Union européenne. Une étude menée par le Centre d'études stratégiques et internationales montre que l'IEU-CEPA a le potentiel d'augmenter la croissance du PIB réel de 0,1% et d'augmenter l'impact sur les revenus de l'État de 2,8 milliards de dollars américains. L'étude a également publié que les exportations indonésiennes vers l'Union européenne devraient augmenter de 57,76%. Une usine de batteries au lithium en Corée du Sud a pris feu après plusieurs explosions lundi 24 juin. Cité par Compass mardi 25 juin, l'incendie a coûté la vie et à au moins 22 personnes et en a blessé 8 autres, dont la plupart étaient des travailleurs étrangers. Pendant ce temps, Zelda Ulan Kartika, chef adjointe des représentants de l'ambassade d'Indonésie à Séoul, en Corée du Sud, a confirmé qu'aucun travailleur immigré indonésien n'avait été victime de l'incendie de l'usine des batteries au lithium. Les données de l'ambassade d'Indonésie à Séoul montrent que le nombre de citoyens indonésiens vivant ou résidant en Corée du Sud au 28 février 2019 était d'environ 42 000 personnes. L'Indonésie et le Canada ont discuté de 20 questions de négociation et d'une discussion d'experts sur la question des entreprises publiques lors du 8e cycle de négociation sur l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et le Canada, ACICEPA, qui a eu lieu à Ottawa, au Canada, le lundi 24 juin, heure locale. Le directeur général des négociations commerciales internationales au ministère du Commerce de la République d'Indonésie, Jatmiko Brice Wicaksono, a déclaré que l'Indonésie encourage les responsables des questions de négociation à intensifier la communication et à faire preuve de pragmatisme afin que toutes les questions des négociations puissent être résolues. Un communiqué de presse du ministère du Commerce mardi 25 juin a déclaré que Jatmiko était convaincu que, même s'il restait des problèmes non résolus, l'Indonésie et le Canada pourraient parvenir à un accord objectif et mutuellement avantageux. À cette occasion, pour la première fois, une discussion a eu lieu sur la formation d'un dialogue sur les minéraux critiques. Selon Jatmiko, l'Indonésie a proposé un dialogue sur les minéraux critiques dans le cadre de l'ICACEPA. Cette proposition a été soumise pour explorer les avantages des deux pays dans la gestion des ressources minérales et le développement de technologies nouvelles et renouvelables. Le sprinter indonésien Lalu Zohri est certain de participer aux Jeux olympiques de 2024, qui seront sa deuxième occasion de participer à un événement sportif mondial après 3 ans. Le Comité national olympique indonésien a confirmé la qualification du coureur de courte distance de Nusa Tenggara Occidentale dans une publication sur les réseaux sociaux Instagram mardi 25 juin, cité par CNI Indonesia. Le communiqué de Comité national olympique indonésien indique que Lalu Muhammad Zohri s'est qualifié pour devenir le représentant de l'Indonésie aux Jeux olympiques de Paris 2024 dans l'épreuve d'athlétisme 100 mètres masculin grâce à l'attribution de place pour l'universalité. Pour Zohri, ce seront les deuxièmes Jeux olympiques après ceux de Tokyo il y a 3 ans. À cette époque, Zohri a enregistré un temps de 10,26 secondes et s'est arrêté au tour préliminaire. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Souveraineté indonésienne n'est pas soumise aux pirates des centres de données nationaux » avec Maudry. Sur Twitter, il a été largement rapporté des médias nationaux et étrangers que le Centre national de données indonésien, PDN, avait été attaqué par des pirates informatiques. Le ministre de la Communication et de l'Information, Budi Aristiadi, a souligné que l'attaque n'avait pas été menée contre le PDN, mais contre le Centre national de données temporaires 2, ou bien PDN S2, situé à Surabaya, car le PDN était encore en construction. Le gouvernement a achevé actuellement le processus de construction du premier centre national de données à Cikarang, dans l'ouest de Java. Ce projet devrait être achevé cette année. Outre Cikarang, des PDN seront également construits à Batam et dans la capitale de IKN. Temporairement ou non, 210 agences gouvernementales ont été touchés par ce piratage et les services publics basés sur le numérique ont été perturbés. Selon qui a le plus ressenti l'impact était le bureau de l'immigration. Le public doit faire la queue jusqu'à 3 heures pour obtenir les services d'immigration. Cependant, le gouvernement a déclaré lundi 24 juin les services d'immigration concernés fonctionnaient normalement. Depuis, les services de visa et de permis de séjour, les services de passeport jusqu'au service de gestion des documents d'immigration, PDN est une installation importante créée pour stocker, gérer et sécuriser les données de diverses agences gouvernementales. L'objectif de la création du PDN est d'augmenter l'efficacité et la sécurité de la gestion tout en facilitant l'accès aux données pour les agences gouvernementales. En dehors de cela, PDN est également équipé d'un système de protection sophistiqué utilisé pour empêcher les fuites de données et les accès non autorisés. Il semble que cette fois, le système de protection ne soit pas assez sophistiqué pour résister aux attaques des pirates informatiques survenus depuis le 20 juin. Le piratage PDN a été réalisé par un groupe de hackers appelé Lockbit 3.0. Il s'agit d'un groupe de hackers transfrontalier avec un mode ransomware, à savoir le verrouillage des données des victimes dans un but d'extorsion. Ils ont demandé au gouvernement indonésien une rançon de 8 millions de dollars américains, soit environ 131 milliards de roupies. Cependant, le ministre Budi Ari a souligné que le gouvernement indonésien ne répondrait pas aux demandes des pirates. La National Cyber and Crypto Agency, BSSN, et un certain nombre d'agences associées ont été dépêchées pour gérer le piratage. Les mesures prises par le gouvernement pour ne pas se conformer aux demandes des pirates informatiques soient correctes. Cela créerait un mauvais précédent si le gouvernement s'y conformait. Cependant, le gouvernement semble également faire une course contre la montre pour pouvoir sauvegarder les données retenues en otage, même si les pirates n'ont pas donné de délai. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons commencer l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 26 juin 1945, signature de la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies est la Constitution des Nations Unies, ONU, signée par les 50 membres originaux de l'ONU à San Francisco le 26 juin 1945. La Charte est entrée en vigueur le 24 octobre 1945 après avoir été ratifiée par ses cinq membres fondateurs, à savoir la Chine, France, Union soviétique, Royaume-Uni et États-Unis. La Charte des Nations Unies stipule explicitement qu'elle a pouvoir sur tous les autres accords des Nations Unies.
Les États-Unis sont devenus le premier pays à ratifier la charte le 8 août 1945, ce qui en fait le premier pays à rejoindre les Nations Unies. Nous continuons avec l'événement du 26 juin 1988, Journée internationale contre les stupéfiants. La Journée internationale de lutte contre les stupéfiants est la Journée internationale des Nations Unies contre l'abus et le trafic illégal de drogue. La journée a lieu chaque année le 26 juin depuis 1989. Cette date a été choisie parce que le 25 juin 1987 s'est tenue à Vienne la conférence internationale sur l'abus et le trafic illicite des drogues. Cette commémoration a été fixée par l'ONU à travers la résolution 42/112 de l'Assemblée générale du 7 décembre 1987. La commémoration de la Journée internationale contre l'abus et le commerce illicite des drogues est une forme de solidarité et de coopération pour atteindre l'objectif d'une communauté internationale libérée de l'abus des drogues. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 26 juin 2000, Pramudya Anantatur reçoit le 11e Fukuoka Asian Culture Award. Pramudya Anantatur est un écrivain de premier plan dans la littérature indonésienne du 20e siècle. Pramudya a produit plus de 50 œuvres et traduit dans plus de 42 langues étrangères. Le 26 juin 2000, Pramudya Anantatur a reçu le Grand Prix lors du 11e Fukuoka Asian Culture Award au Japon. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 15 septembre 2000 dans la ville de Fukuoka, Japon. Pramudya a reçu le prix principal parce qu'il a joué un rôle déterminant dans l'introduction de la culture asiatique dans le monde. C'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie ayant pour le titre le service de navire Pinisi et de Lion Air ouvre des itinéraires de voyage soutenant le transport et le tourisme vers IKN. Le ministre des Transports de la République d'Indonésie, Budi Karya Sumadi, soutient le projet du navire Pinisi d'ouvrir une route de navigation touristique vers IKN à Penajam Pasir du Nord, Kalimantan Oriental. Le ministre des Transports a également invité l'Association nationale indonésienne des arts amateurs, ou INSA, à collaborer à l'acquisition du navire Pinisi. C'est ce qu'a déclaré le ministre Budi Karya Sumadi lors d'une visite de travail à Balikpapan vendredi 21 juin. Selon Budi Karya Sumadi, cette étape est importante pour présenter IKN à la communauté au sens large, d'autant plus que le potentiel touristique des zoos de Balikpapan est très intéressant à apprécier. Un environnement vert et naturel doit être exploité de manière optimale. Le ministre Budi Karya Sumadi a déclaré que le ministère des Transports avait déterminé deux itinéraires pour le service du navire Pinisi. Tout d'abord, le voyage commence depuis le port de Semayang en passant par le pont de l'île de Balang et par la jetée de ITCIKO Société Anonyme et se termine au port de Semayang. Pour itinéraire inverse, le voyage commence à partir de la jetée de ITCIKO Société Anonyme en passant par le pont de l'île Balang et par le port de Semayang et en terminant à la jetée de ITCIKO Société Anonyme. La durée globale du trajet est estimée à environ 3h30. Pendant le voyage, les touristes peuvent profiter de diverses expériences intéressantes telles que des visites culinaires, visiter des bâtiments polyvalents et le pont esthétique de l'île de Balang, passer par le centre du sanctuaire des orang-outans et observer divers animaux endémiques, notamment des marsouins, des singes proboscis et des crocodiles. En outre, dans la zone centrale du gouvernement central, les touristes peuvent profiter d'une visite de la ville en utilisant des véhicules respectueux de l'environnement. Le ministre des Transports a également révélé que la route maritime pourrait réduire le temps de trajet de Balikpapan à IKN par rapport au transport terrestre. Cela vous donnera plus de temps pour profiter de votre visite à IKN. Le ministre des Transports espère que ce service de transport maritime pourra offrir une expérience unique aux touristes, contribuer à l'économie régionale et préserver la culture maritime indonésienne. Pendant ce temps, citant la page IDX Channel, afin de fournir un soutien au transport aérien pour le développement de la capitale indonésienne IKN, Lion Air a annoncé une nouvelle liaison Balikpapan-Lombok. Cela a été transmis par la stratégie de communication d'entreprise du groupe Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, dans son communiqué officiel lundi 24 juin 2024. Danang a déclaré que le premier vol est prévu pour le 3 juillet 2024. L'avion volera directement de l'aéroport de Lombok à l'aéroport de Balikpapan et vice-versa avec un horaire de vol quotidien. Selon lui, cet itinéraire soutient le développement de la capitale Nusantara IKN dans le Kalimantan Oriental et encourage les gens à explorer des belles destinations en Indonésie. Danang a également expliqué que cette route était considérée comme ayant le potentiel d'ouvrir l'accès au tourisme et aux affaires entre le Kalimantan Oriental et Nusa Tenggara. C'est Jurita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Jemputmu nanti.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
L'Indonésie est un pays archipelagique et presque toutes les îles possèdent de belles et majestueuses cascades. L'une des cascades est assez belle et est située dans le village de Tongging, district de Merak, région de Karo, province de Sumatra du Nord, Indonésie, cascade de Sipiso-Piso. Cette cascade a une hauteur jusqu'à 120 mètres et coule abondamment pour former une ligne verticale parfaite. La cascade Sipiso-Piso est donc enclose dans la cascade de type plonge. La cascade de Sipiso-Piso est située sur le bord de la caldeira géante du lac Toba et se forme sur le cours de la rivière Pajanabolon, qui est l'une des rivières alimentant le lac Toba en nous. Le nom Sipiso-Piso vient du nom d'une montagne située juste au nord-est de la cascade Sipiso-Piso. Cette montagne, également appelée Mont Sipiso-Piso, culmine environ 1860 mètres d'altitude. La particularité de cette cascade est qu'elle peut être appréciée d'en bas et d'en haut. D'en bas, vous pouvez vous approcher de la cascade et ressentir la sensation de fraîcheur des éclaboussures d'eau. Mais il faut marcher assez loin en suivant le chemin disponible. Diverses activités peuvent être pratiquées à la cascade Sipiso-Piso, notamment jouer dans le courant de la cascade. Cherchez un endroit sûr et soyez toujours prudent lorsque vous jouez dans l'eau. Vous pouvez également pratiquer le sport extrême du parachutisme et du parapente depuis le sommet de la colline et atterrir sur les rives du lac Toba. Et bien sûr, vous pouvez également prendre des photos à divers endroits intéressants avec cette magnifique cascade en arrière-plan. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Jelas miliki sesuatu, namun entah hati masih meragu. Tiap tak bersamamu tak kurasakan rindu. Mungkinkah kau benar untukku? Tak tahu apakah ku cinta atau ku hanya senang karena kau ada. Yang ku takutkan darah ini bukan asmara. Mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Jujur ku masih tak menahu, apakah kau memang tercipta untukku? Bila hari-hariku masih indah tanpamu, mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Oh, lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Kau tak harus menunggu, semua tanyaku berlalu. Kini ku pun menunggu.
chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Diwakatobi, signifie Awakatobi. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Sebaiknya. Je répète, Sebaiknya signifie c'est mieux. Cette conversation a eu lieu entre Chris, un vlogueur australien, et un passager du ferry en route de la ville de Baobao vers l'île Oga, les îles Wakatobi. Les passagers du ferry ont répondu à la déclaration de Chris, affirmant leur désir de voir la beauté sous-marine de l'île de Oga en proposant une activité que Chris devrait faire, à savoir la plongée. Écoutons la conversation.
Di Pulau Hoga, Anda bisa berjemur di pantai, bermain snorkeling, atau menyelam.
Kata orang, pemandangan bawah laut Pulau Hoga sangat indah. Saya ingin melihatnya.
Kalau begitu, sebaiknya Anda mencoba aktivitas menyelam.
Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Sebaiknya. Sebaiknya, ou en français, c'est mieux. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Kalau begitu. Kalau begitu, en français alors. Sebaiknya. Sebaiknya, en français, c'est mieux. Anda. Anda signifie vous. Mencoba. Mencoba signifie essayer. Aktivitas. Aktivitas signifie activité. Menyelam. Menyelam, en français, plonger. Kalau begitu, sebaiknya Anda mencoba aktivitas menyelam. Kalau begitu, sebaiknya Anda mencoba aktivitas menyelam. Signifie, alors, vous devez essayer les activités de plongée. Pulau Hoga. Pulau Hoga signifie l'île Oga. Berjemur. Berjemur signifie se bronzer. Pantai. Pantai signifie la plage. Bermain. Bermain signifie jouer. Snorkeling. Snorkeling signifie la plongée en apnée. Pemandangan. Pemandangan signifie la vue. Bawah laut. Bawah laut signifie sous l'eau. Sangat indah. Sangat indah signifie très beau. Ingin. Ingin signifie vouloir. Melihat. Melihat signifie voir. Dans une conversation, vous entendez « Kalau begitu, sebaiknya Anda mencoba aktivitas menyelam. » Je répète, « Kalau begitu, sebaiknya Anda mencoba aktivitas menyelam. » Signifie « Alors, tu devrais essayer de plonger. » Dans cette phrase, il y a l'adverbe « sebaiknya »,« sebaiknya » ou « sepatutnya »,« sepatutnya » ou bien selayaknya. Selayaknya signifie c'est mieux. Le mot sebaiknya. Sebaiknya signifie c'est mieux peut être utilisé pour expliquer les activités proposées que quelqu'un devrait ou devrait réaliser. Dans le cadre de cette conversation, les passagères du ferry ont répondu à la déclaration de crise affirmant leur désir de voir la beauté sous-marine de l'île Hoga en proposant une activité que crise devrait faire, à savoir plonger. Écoutons des exemples d'utilisation d'adverbes pour expliquer des propositions dans d'autres phrases. Seharusnya. Seharusnya signifie c'est mieux. Seharusnya kita makan siang dulu sebelum menyelam. Seharusnya kita makan siang dulu sebelum menyelam signifie c'est mieux qu'on déjeune d'abord avant de plonger. Sepatutnya. Sepatutnya signifie cela devrait. Kita sepatutnya menghargai adat istiadat masyarakat setempat. Sepatutnya kita menghargai adat istiadat masyarakat setempat. Signifie nous devons respecter les coutumes de la communauté locale. Les îles Wakatobi, la province du sud-est de Sulawesi, sont l'une des 10 destinations touristiques prioritaires d'Indonésie. Le nom Wakatobi est l'abréviation des noms des îles de l'archipel, à savoir l'île Wanchi, l'île Kaledupa, l'île Tomia et l'île Binongko. Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Di Pulau Hoga, Anda bisa berjemur di pantai, bermain snorkeling, atau menyelam.
Kata orang, pemandangan bawah laut Pulau Hoga sangat indah. Saya ingin melihatnya.
Kalau begitu, sebaiknya Anda mencoba aktivitas menyelam.
Chers amis, voilà l'émission d'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui dont le sujet est sebaiknya. Sebaiknya signifie c'est mieux. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir!
Kau buat sirna, sudahlah harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan, walau hati tak rela untuk menangis semua. Takkan ada yang kekal. Kau buat sirna, sudahlah harapanku hidup bersamamu.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme kroncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie au monde.
Kau tak sempurna, buat ku tinggalkanmu. Karena ku tak putus sempurna, yang ku butuh kamu. Takkan ku lelah, yakinkan hatimu.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Java occidental intitulée Poem Bandung. Chers auditeurs, cette chanson parle de nourriture, à savoir de tapé Bandung, ou en sundanais, elle s'appelle Peuyeum Bandung. D'après les paroles, tapé ou Peuyeum Bandung est bien connu aussi bien dans les villages que dans les villages. L'ingrédient principal est le manioc et le prix n'est pas si cher. Tous les groupes de Bandung, parents et enfants, adorent le tapé Bandung. Bonjour, chers auditeurs, voici la chanson de Java occidental intitulée Peuyeum Bandung, chantée par Nining Meida. Bonne écoute!
Mana di kampung di kota.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.